C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le réveil de la Dame de Fer. Réouverture ce matin de la Tour Eiffel. Après une longue hibernation pour cause de travaux et de pandémie, on entendra l'impatience des touristes et des professionnels privés du monument depuis plus de 250 jours. La pire catastrophe naturelle depuis l'après-guerre. En Allemagne, plus de 80 morts ce matin dans les inondations des derniers jours. En France, les pluies n'ont pas fait de victimes, mais des dégâts importants en Lorraine notamment. Reportage à suivre. À suivre également une campagne de sensibilisation contre l'excision. Des dizaines de milliers de jeunes filles sont menacées de mutilation à l'occasion de leur retour au pays pendant les grandes vacances. Les enfants français qui consomment trop d'antibiotiques et la grande barrière de corail en Australie qui risque de perdre son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et avec l'invité de 7h50, il sera question du pacte vert tout juste présenté par la Commission européenne. Dans 20 minutes, on demandera au co-président du groupe écologiste au Parlement européen, l'eurodéputé belge Philippe Lambert, ce qu'il en pense.
France Inter.
C'est l'un des monuments les plus visités au monde, mais il était fermé aux visiteurs depuis près de 9 mois.
Un long sommeil dont la Tour Eiffel va sortir ce matin. 260 jours sans un touriste, près de 120 millions d'euros de pertes à cause du Covid, mais aussi d'une révision complète de ses ascenseurs, notamment ouverture des grilles à 8h45, une réouverture sous condition à partir de mercredi prochain, dans 5 jours, passe sanitaire obligatoire autour du site. Les touristes et les professionnels s'y prépare déjà. Reportage signé Faustine Mouréane.
Loin d'inquiéter, le pass sanitaire obligatoire pour accéder à la Tour Eiffel ou monter dans les bus à étages touristiques est bien accueilli ici par des professionnels fatigués. Après une année 2020 catastrophique, Laurent, vendeur de gaufres, crêpes et glaces dans son carrousel, y voit un mal nécessaire.
Ce qui risque surtout de nous freiner, c'est s'il y a une énième vague et qu'on referme tout. Moi, je préfère un pass sanitaire qu'un couvre-feu ou une fermeture complète.
Surtout que les affaires reprennent.
Par rapport à 2019, non, mais par rapport à l'an dernier, oui, on voit quand même une nette progression, on voit quand même des touristes. J'ai fait 25% du chiffre d'affaires 2019. Et donc, c'est beaucoup mieux que l'an dernier où j'ai fait 13.
Reste quand même que les touristes, eux, se préparent à galérer avec ce pass sanitaire.
On sera reparti, ouais, mais c'est vrai que ça aurait été compliqué, ouais, de refaire des tests tout le temps.
Ce père de famille, marié à une Suédoise, est en France pour quelques jours de vacances près de sa famille et ses amis. Il a visé juste donc dans le calendrier pour profiter un peu de Paris et note un léger manque d'organisation typiquement français.
Quand on était en Allemagne, on a visité un musée à Hambourg de miniatures qui est très bien pour les enfants, mais ils ont testé les enfants au musée. Donc ça faisait partie de la routine d'entrée. C'était gratuit et c'était, oui, ben non, vous n'êtes pas testé, ben c'est pas grave, passez dans ce cliché-là, les enfants se sont fait tester et c'était réglé.
Peut-être une idée à souffler en effet au grand site touristique de la capitale.
Faustine Mouréane, l'extension du pass sanitaire continue d'agiter le monde politique. Les groupes LR et centristes du Sénat vont saisir le Conseil constitutionnel après l'adoption du projet de loi prévu la semaine prochaine. En attendant, les chiffres des demandes de rendez-vous pour une vaccination ne cessent d'augmenter. 3 millions de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib depuis lundi soir et le coup de pression du chef de l'État.
Un coup de pression totalement assumé hier par Emmanuel Macron.
Le président qui a repris son bâton de pèlerin dans les Pyrénées, visite du Vaxibus du Tour de France. Le chef de l'État qui s'est confié aussi à quelques journalistes en marge de sa visite sur les raisons qui l'ont poussé à ce nouveau tour de vis sanitaire. Les détails avec Julie-Marie Lecomte.
Emmanuel Macron le dit très clairement, une fois les micros coupés, ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, je leur laisse cette responsabilité, mais je leur dis... Vos droits ne peuvent pas être les mêmes parce qu'ils supposent des devoirs. La colère suscitée par les mesures annoncées lundi, il assure ne pas la traiter à la légère. Les oppositions, il dit qu'il les respecte, mais sa conviction est intacte. On ne peut refuser délibérément d'utiliser les armes dont on dispose. La liberté de chacun dépend aussi du civisme de l'autre. Emmanuel Macron explique une nouvelle fois ne pas vouloir exposer des gens qui se seraient fait vacciner au risque d'attraper le virus parce que d'autres ont refusé de jouer collectif ni voir des pans entiers de l'économie subir de nouvelles fermetures. Ceux qui ne veulent pas être vaccinés peuvent tout à fait, dit-il, aller faire leurs courses, aller chez des amis, rester chez eux, mais pas aller dans des lieux où il y a du brassage et dont il est établi que la contamination s'y propage, à moins de se faire tester gratuitement encore jusqu'à l'automne. Et cela, ce n'est pas une dictature, rappelle le chef de l'État. À ses yeux, c'est tout simplement retrouver le sens de ce qui fait une nation.
Julie-Marie Lecomte, l'Allemagne en deuil après les inondations des derniers jours les plus meurtrières depuis 20 ans sur le continent européen. Dernier bilan dramatique ce matin, 81 morts, surtout dans dans l'ouest de l'Allemagne. Mais encore des centaines de disparus, des intempéries qui frappent également la Belgique où l'on dénombre au moins 12 morts et 5 disparus. Nous serons à Liège, menacés par la Meuse, dans le journal de 8 heures. En France, pas de victimes à déplorer, mais des dégâts importants dans l'est du pays. Réveil difficile notamment hier en Meurthe-et-Moselle, après les inondations de la veille à Longuillon, tout près de la frontière belge. Reportage de Magali Fichter.
Depuis plusieurs heures, Bernadette éponge, nettoie, brouette les déchets, balaye la boue, mais elle est désespérée face à l'étendue des dégâts. Tout le rez-de-chaussée de sa maison a été inondé. Elle n'a rien pu faire.
Je n'ai rien vu. Quand je me suis levée à 6 heures du matin, tout était déjà inondé comme ça. Ah ben, je n'ai plus de machine à laver, je n'ai plus de séchoir, je n'ai plus de frigo, je n'ai plus de congélateur, je n'ai plus de café à vin, je n'ai plus de chaudière. Tout est en bas.
Même chose pour Roland, un peu plus loin. Il n'a pas dormi de la nuit, mais ça n'a pas servi à sauver tout ce qu'il stockait dans ses 3 caves. De son vieux congélo plein de viande à son motoculteur tout neuf.
Moi j'ai surveillé l'eau, elle a monté, elle a commencé à monter à minuit. Alors je me suis dit, je vais pas oublier. Parce que en 93, ça m'arrivait une fois. J'ai attendu, je sortais dehors, voir, parce que je pensais pas qu'elle monterait dans la cour. Elle m'a monté dans la cour, elle a coulé dans les 3 caves, elle m'a noyé les 3 caves.
Dans leur malheur, les anciens comme lui ont quand même pu prévenir les nouveaux habitants moins habitués pour qu'au moins ils évacuent les voitures du centre-ville, mais certains n'ont pas pu avoir l'info à temps. Vers midi, des camionnettes gisaient encore dans les rues de l'eau boueuse jusqu'aux portières.
Magali Fichter de France Bleu, Lorraine Nord. L'actualité en France aujourd'hui, c'est aussi la convocation ce matin d'Éric Dupond-Moretti devant les juges de la Cour de justice de la République, avec à la clé une probable mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour régler ses comptes dans des dossiers dans lesquels il avait été impliqué auparavant en tant qu'avocat.
Et à 16h36, Sébastien, on en vient à cette initiative pour tenter de lutter contre l'excision pendant les vacances.
C'est souvent pendant les grandes vacances, en effet lors d'un retour au pays d'origine des parents, que des dizaines de milliers de jeunes filles en sont victimes. L'association Excision, parlons-en, lance donc ces jours-ci une grande campagne de sensibilisation avec ce slogan notamment placardé dans les aéroports: impatiente à l'aller, mutilée au retour. 125 000 femmes ont été excisées en France, près de 600 000 en Europe, comme Anita, guinéenne d'origine, qui se bat aujourd'hui pour faire cesser ce fléau. Thibault Lefebvre a recueilli son témoignage.
C'était un été, Anita avait 8 ans. Comme chaque année, ses parents la laissent avec ses deux sœurs sous la garde de ses grands-parents dans une petite maison du centre de Conakry, la capitale guinéenne. Quelques jours après, ils apprennent que leurs 3 filles ont été excisées.
Ça a été très violent. On avait 3 de nos tantes avec nous et 2 femmes, 2 exciseuses. Une qui fait les pansements et une qui coupe. Ça s'enchaîne et c'est juste dramatique, quoi.
Un geste rapide, sans anesthésie, et qui change une vie, car encore aujourd'hui, Anita a des séquelles.
Il m'arrive d'avoir des douleurs après les rapports sexuels, il m'arrive d'avoir des douleurs en urinant, et ça c'est complètement lié à l'excision, parce que c'est vraiment au niveau du clitoris qui a été coupé. J'ai subi ça peut-être pour rien. Et donc pour moi, c'est plutôt une forme de colère que j'ai.
Une colère qui, 20 ans après, ne s'apaise pas, car en Guinée, rien ne change, et cet été, comme tous les étés, des jeunes filles venues de France seront excisées.
20 ans après, vous vous rendez compte, on en est encore là. Et je sais que mes tantes aujourd'hui, elles sont informées, elles sont sensibilisées, mais elles continuent encore. L'idée, c'est pas de dire changez vos traditions. L'idée, c'est de venir et de dire que ça sert à rien de couper le clitoris des jeunes filles.
Selon l'association Excision, parlons-en, 30% des filles de parents originaires de pays pratiquant l'excision et vivant en France sont aujourd'hui menacées.
Thibault Lefebvre, les enfants français sont-ils trop gavés de médicaments et notamment d'antibiotiques? Une étude française de l'Inserm publiée dans The Lancet le laisse entendre. Les explications de Véronique Julia.
L'étude porte sur les médicaments remboursés et prescrits aux enfants de moins de 18 ans hors hospital en 2011 et en 2019. Conclusion, sur l'année 2019, près de 9 enfants sur 10 ont eu au moins une prescription de médicaments. C'est 4% de plus qu'en 2011. Et les enfants de moins de 6 ans étaient les plus exposés. 97% d'entre eux ont fait l'objet d'une prescription. Les familles de médicaments les plus prescrits sont les analgésiques, les antibiotiques, la vitamine D, les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi les corticoïdes. Plus de la moitié des enfants de moins de 6 ans s'est vu prescrire un antibiotique durant l'année 2019. C'est 5 fois plus qu'aux Pays-Bas. Un tiers a reçu un corticoïde oral. C'est 5 à 20 fois plus qu'aux États-Unis et en Norvège. Alors c'est vrai, les recommandations officielles ont porté. La consommation d'antibiotiques diminue, moins 12% entre 2011 et 2019. Il n'empêche, c'est encore trop, car ces médicaments ont des effets indésirables à court et à long terme. Il n'est pas bon pour le microbiote d'un jeune enfant, dit un gastro-entérologue, d'avoir tous les ans une semaine systématique de prise d'antibiotiques.
climatique.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.
On a commencé avec la Tour Eiffel, on termine avec un autre monument naturel, celui-là, et qui est aujourd'hui menacé.
La Grande Barrière de Corail d'Australie, classée au patrimoine mondial, mais qui pourrait bientôt perdre son classement auprès des Nations Unies, car les coraux blanchissent trop depuis des années sous l'effet du réchauffement climatique. L'ONU pourrait donc retirer son label et l'Australie est furieuse, Sandy Dauphin.
La Grande Barrière de Corail est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 30 ans, mais cette splendeur naturelle se détériore. Elle a connu trois épisodes majeurs de blanchissement ces cinq dernières années, des poussées de fièvre, conséquence du réchauffement climatique. Le mois dernier, un pré-rapport de l'UNESCO a recommandé de rétrograder le statut de la Grande Barrière. Tollé en Australie, la ministre de l'Environnement, Susan Ley, avait vivement réagi à ce moment.
Nous avons clairement fait savoir notre déception et même notre perplexité. Nous sommes là pour nous battre pour la Grande Barrière et empêcher cette décision.
De son côté, l'Organisation australienne de défense de l'environnement, Climate Council, accuse l'État, grand exportateur de charbon, de ne pas suffisamment agir contre le réchauffement climatique. L'une de ses porte-paroles, Leslie Hughes, professeure émérite de biologie, interrogée hier sur la chaîne de télévision australienne ABC.
Je crois que si la barrière est classée en danger, cela revient simplement à énoncer la vérité. Le changement climatique est la plus grande menace. La combustion de carburants fossiles, qui ne préoccupe pas le gouvernement, provoque le blanchissement du corail.
Hier, le gouvernement australien a invité des diplomates étrangers à plonger sur le récif. Une diplomatie masquée tuba pour tenter de convaincre que la Grande Barrière de Corail n'a rien à faire sur la liste des sites en danger de l'UNESCO.
La Grande Barrière de Corail d'Australie menacée de déclassement par l'UNESCO, c'était Sandy Dauphin.
Et un merci tout particulier, Sébastien Legénie. C'était votre dernier journal de cette
année. Mais tout à fait,
avant
Amélie.
Avant un été bien mérité, de nouvelles aventures à la rentrée.
Exactement, je vous remplace, figurez-vous, Amélie, à 18h.
Mais quel passage de relais, effectivement. Vous allez pouvoir dormir, vous allez voir, ça fait du bien.
Et vous, on vous retrouve à la culture.
Absolument, très bel été. Merci, Sébastien Legénie.